Marina et Alia, un amour monstre. Par Estelle Gap. Seconde partie, Alia, la muette. Adaptation de « Je t'aime affreusement » d'Estelle Gap.
Plus capricieux le cœur que le feu dans ses pétales sauvages.
Сердце пламени капризней в этих диких лепестках. Я найду в своих стихах все, чего не будет в жизни.
Moi, je trouverai dans mes poèmes tout ce qui manquera dans ma vie.
Chaque jour, j'appelle à l'aide un miracle qui me ramène dans le monde des vivants. Cette voix d'outre-tombe pourrait être celle de Marina Tsvetaeva, la femme scandaleuse, la femme sorcière, qui défiait son époque de son talent novateur, provocateur. Séductrice et solitaire, la femme volcan s'est éteinte à défaut de passion ou s'embraser. En 1919, elle écrivait cette phrase prophétique « À vous, mes lecteurs de dans 100 ans ». Un siècle plus tard, la prose de Marina est jouée au théâtre, à l'opéra. Mais sait-on comment ces manuscrits ont été sauvés? Chaque jour, j'appelle à l'aide un miracle qui me ramène dans le monde des vivants. Cet appel au secours, c'est celui de sa fille, Ariadna, qui porte le nom de son père, Sergueï Efron, disparu parmi les millions de victimes anonymes de la terreur stalinienne. En 2017, comme Vénus Kurigata, j'entreprends la lecture du fascinant journal de Marina Tsvetaeva. Au détour d'une page, je croise le regard bouleversant d'une enfant, aux magnifiques yeux transparents. La photographie, en noir et blanc, est si petite, si discrète, comme glissée à la marge, écrasée par le volumineux recueil de 800 pages. Je viens de rencontrer Ariadna Efron, à l'âge où sa mère la surnomme tendrement Alia. Je suis émue par ce visage d'innocence, perdu dans la mémoire des temps. Petite fille, Alia écrivait des poèmes, récitait les élégies de Rilke, tenait son journal intime. Elle aurait pu devenir écrivaine, mais écrasée par la grande histoire, écrasée par le talent de sa mère, elle a renoncé. Adulte, elle est déportée pendant 16 ans. Elle n'écrit plus. Elle peint. Des paysages paisibles, comme pour transfigurer l'horreur du goulag. Le destin d'Ariadna me bouleverse. Alors, la lectrice que je suis, comme Vénus Kurigata, s'empare de sa seule arme, les mots. Je prête les miens à Ariadna, pour lui redonner vie, lui redonner corps, pour la sortir de l'ombre de sa mère et de l'oubli. J'imagine les paroles qu'elle prononcerait si elle pouvait s'adresser à sa mère, par-delà le temps, par-delà la mort. J'imagine une lettre qu'Ariadna n'a jamais écrite, mais qu'elle aurait pu écrire, pour confier à sa mère ce qu'elle n'a pas eu le temps de lui dire, pour remettre en ordre le chaos de leur vie, donner du sens à l'insensé. La forme est fictive, bien sûr, mais le contenu est vrai. Plongée dans le regard transparent de la petite fille qu'elle fut, je vois les événements de sa vie comme en accéléré. Née en 1912, Ariadna traverse deux guerres mondiales, la révolution russe, les procès staliniens, le goulag. Après-guerre, elle consacre les 20 dernières années de sa vie à rassembler les manuscrits de sa mère, éparpillés en Europe, aux États-Unis. En 1961, elle publie le premier recueil de poèmes de Marina. Ariadna meurt en 1975, à l'âge de 63 ans, épuisée par les épreuves et le poids du devoir. Si la petite Alia n'avait pas eu le courage de survivre au grand bouleversement du XXe siècle, l'œuvre de Marina ne nous serait pas parvenue. Mais qui le sait? Qui connaît le nom d'Alia, d'Ariadna Ephron, qui ne figure sur aucune édition? Alors je laisse monter la colère contre l'injustice d'une vie sacrifiée, contre l'amour dévorant d'une mère tyrannique. Je laisse l'amour et la colère déborder des livres d'histoire. Peu à peu, je m'efface devant un autre jeu, celui qui s'est trop longtemps tu sous le coup de la censure, celui qui s'est condamné au mutisme, comme on fait vœu de silence. Écoutez, voilà Alia la muette.
Moscou, mars 1955. Daragaïa mam, chère mère. Je me souviens que toute mon enfance, je vous ai appelée par votre prénom. Comme si ce mot, mère, il m'avait fallu toute une vie pour le prononcer. J'ai 43 ans. C'est l'âge que vous aviez lors de notre grande dispute en 1934 à Paris. Vous souvenez-vous? Toute mon enfance, je vous ai vu travailler à votre table avec une discipline de fer. Mais à 20 ans, j'ai cessé de vous admirer. L'idole s'est brisée. Vous étiez devenu despotique. Vous m'imposiez les tâches domestiques qui vous étaient insupportables. Vous me reprochiez de vouloir votre mort en voulant vivre. Vous avez eu ces mots terribles. Cela valait-il la peine de massacrer ma vie pour elle? Ai-je assez payé en retour avec ma vie massacrée? Aujourd'hui, après 2 années de procédure, 2 ans après la mort de Staline, je suis enfin libérée, réhabilitée. Mais à quel prix? Oui, je suis une fille indigne, indigne de m'emporter contre vous, vous qui m'avez appris à lire et écrire à l'âge le plus tendre, 4 ans je crois. Vous m'avez transmis l'amour de la littérature, un don vital, un don d'endurance au pire, grâce auquel je suis là, revenu de l'enfer. Pourtant, l'enfer, c'est vous qui m'y avez précipité, à l'âge de 7 ans, lorsque vous nous avez abandonnés, Irina et moi, dans cet orphelinat des environs de Moscou. Qu'est devenue ma petite sœur? Vous ne m'avez jamais rien dit à son sujet. Je sens encore son petit corps tremblant allongé contre moi dans l'obscurité glacée du dortoir. Pour la petite fille que j'étais, Irina s'est évanouie dans la tempête d'un hiver trop rude, me laissant avec cette culpabilité infinie. Pourquoi ai-je survécu? Depuis ma libération, je n'ai qu'une idée en tête, retrouver dans vos manuscrits les passages qui concernent ma petite sœur. Me rapprocher de celle qui fut, pendant 2 années et pour toujours, mon double, mon mystère, ma blessure. Étrangement, Irina vous inspirait des mots durs. J'étais votre miracle, elle était votre démon. Vous lui ôtiez le pain de la bouche pour me nourrir, moi. Je lis bientôt cette phrase que vous m'adressez par-delà le temps et qui me foudroie. « Alechka, n'oublie pas. Je t'aime. Je n'aime que toi. » Je comprends soudain. Irina, l'enfant incomprise, l'enfant avec qui vous ne parveniez pas à communiquer, souffrait d'un retard mental. Vous vous êtes détourné d'elle. Irina est morte de faim et de solitude, se cognant la tête contre les murs, en fredonnant « Aïe doudou doudou ». Je savais votre amour monstrueux. À présent, je deviens monstrueuse à mon tour. Vous n'êtes plus là, mais vous m'avez laissé cet héritage insupportable. Comment vivre pendant toutes ces années avec la sensation d'une ombre qui ne cesse de me suivre ? 16 ans de goulag suffiront-ils à payer ma double faute? Celle d'avoir survécu par deux fois à l'horreur. La famine, puis les camps.
La fiction a ses limites. Sans doute Ariadna n'a-t-elle jamais éprouvé un tel sentiment de colère. Malgré ses années de déportation, elle ne s'est jamais plainte. Et surtout, elle a gardé foi dans le communisme jusqu'à la fin de sa vie, pensant, comme tant d'autres victimes, que sa condamnation n'était qu'une erreur. En 2017, à Paris, je rencontre une dame, russe émigrée, qui a connu Ariadna de son vivant. Elle s'appelle Irina Emelianova. Lorsque je lui rends visite pour la première fois, ses grands yeux bleus me bouleversent. Je crois voir ceux de la petite Alia. À 82 ans, Irina me raconte. Le rire tonitruant d'Ariadna, sa façon de parler fort, de faire des blagues au téléphone, sa façon de s'asseoir toujours à la même extrémité du canapé lorsqu'elle leur rendait visite dans l'appartement de Moscou où Irina vivait avec sa mère, Olga Ivinskaya. Qui se souvient de ces noms, pourtant légendaires? La belle Olga Ivinskaya n'est autre que la muse du grand écrivain Boris Pasternak. Irina, sa fille, est la belle-fille de Pasternak. Ariadna Efron a le même âge qu'Olga Ivinskaya. Elle pourrait être la mère d'Irina, cette belle jeune fille aux grands yeux bleus. Comme si l'autre Irina, la petite sœur sacrifiée, se réincarnait en fille de cœur.
Taroussa, mars 1957. Chère mère, ce printemps, je suis venue m'installer ici, à Taroussa, à 150 km au sud de Moscou. Je retrouve la maison de campagne de vos parents, miraculeusement épargnée par la guerre, telle que vous me la décriviez enfant. Je relis et relis encore votre journal, Marina. Je remonte le temps pour aller à votre rencontre en quête de ma propre enfance. Nous sommes à Moscou, l'hiver 1917. Papa est élève officier. Engagé dans l'armée des volontaires, le lieutenant Sergueï Efron part combattre les bolcheviks. Nous vivons recluses, sans ressources, sous les toits. Pour l'enfant que j'étais, c'est d'abord un souvenir magique, comme une apparition. Regardez-moi, Marina. J'ai 5 ans. Je suis assise à la table de la cuisine, penchée sur mon cahier. Je vous dévore de mes grands yeux bleus, avides de vous, qui vous effraient parfois. Ce que je préfère par-dessus tout, c'est dessiner. Des lettres, des mots, et surtout, nos animaux fétiches. Le lynx pour vous, le lion pour Sergueï. Nous en remplissons des pages pour conjurer le sort, espérant maintenir papa en vie, envers et contre tout. Vous êtes debout en face de moi, vous me tournez le dos. Vous faites la vaisselle à contre-cœur dans un vieux baquet de fer blanc. Je ferme les yeux pour m'emplir de vous, de votre silhouette à contre-jour. Je fais un vœu. Que rien ne nous sépare, mère. Que rien ne nous sépare. Au-dessus de nos têtes, des pages de journaux tapissent le plafond pour en combler les fissures. Je parviens à déchiffrer quelques gros titres. Abdication du tsar, gouvernement provisoire, victoire bolchevique. J'aime parcourir cette coupole de papier, ce labyrinthe de lignes qui s'entrecroisent. Malgré la saleté, notre cuisine est un temple sacré, dédié au culte des mots. Vous m'obligez à un exercice exigeant. Écrire chaque jour une page de mon journal intime. Je serre mon crayon, j'attends l'inspiration. Regardez-vous, Marina, vous qui adorez le théâtre. Avec votre robe grise et vos bagues d'argent, vous entrez en scène dans ma vie pour ne plus jamais en sortir. Vous allez vous retourner, comme une tragédienne prépare sa réplique, et je vous applaudirai. Je réclame qu'on m'aime aujourd'hui comme on m'aimera dans 100 ans. Vous êtes jeune, belle, éternelle. Vous défiez le monde de votre mépris éclatant. Je vous aime pour toute la vie.
Когда-нибудь, прелестное создание, я стану для тебя воспоминанием. Там, в памяти твоей голубоокой, затерянным. Так далеко-далеко.
Un jour, ô ma gracieuse créature, je deviendrai pour toi un souvenir perdu dans tes yeux bleus, au loin de ta mémoire, dans le lointain. Tu oublieras, et mon profil onébusqué, et mon front couronné de fumée, mon rire importun et fréquent, ma main calleuse aux bagues d'argent, notre logis d'antan, notre grenier cabine, de mes papiers, la confusion divine, l'année terrible. Malheur, Eliès, de ton enfance, de ma jeunesse.
Pourquoi faut-il toujours que le meilleur côtoie le pire près de vous? Souvenez-vous, Marina, nous sommes encore à Moscou. C'est l'hiver 1919-1920, au plus fort de la guerre civile et de la famine qui ont suivi la révolution. Depuis 3 ans, vous n'avez plus aucune nouvelle de Sergueï. Vous vendez vos livres pour acheter des pommes de terre gelées. Vous sciez les meubles pour alimenter le poêle et chauffer l'eau du samovar. À court d'argent, vous parvenez à peine à nous nourrir. Un jour, une voisine vous parle d'un asile pour orphelins, un hospice à Kountsevo, dans la banlieue de Moscou, où les enfants seraient bien traités, nourris au riz et au chocolat. Vous croyez au miracle. Vous me préparez au départ comme à un rôle. Alia, tout cela, c'est un jeu. Tu joues à la petite orpheline. Tu auras la tête rasée et un numéro autour du cou. Ce sera la grande aventure de ton enfance. Mais vos paroles me terrifient. Ce n'est pas du théâtre, c'est la guerre. Alia, si on te frappe, frappe. Ne baisse pas les bras, sinon on te fracassera la tête. Là-bas, rien ne se passe comme prévu. Je me rappelle le trajet en traîneau à travers la tempête de neige et l'épaisse forêt de pins sombres. Je revois l'entrée de la datcha, une immense bâtisse de bois avec sa façade jaune et rouge, délabrée. Devant le bureau de la directrice, vous me répétez « Surtout, ne dites pas que je suis votre mère, vous n'avez plus de mère. » Vous me confiez Irina et vous disparaissez, me promettant de revenir. Je découvre les couloirs crasseux, les dortoirs bondés où nous allons dormir à 2 ou 3 par lit, tête bêche, recouverts d'un drap miteux. On nous confisque notre linge propre, nos souliers. Nous portons des tuniques sales, déchirées. Nous marchons pieds nus sur le sol glacé. On nous rase le crâne. Je garde une mèche de mes cheveux que je glisse dans l'un de vos livres en guise de talisman. Quelques jours à peine après notre arrivée, je tombe malade. Je crache du sang. Il n'y a pas de médecin, pas de médicaments. Je ne mange plus, je délire de fièvre, je vous écris. Maman, je vous aime. Je meurs. Je vous ferai don de moi. Je prie tellement Dieu pour qu'il vous donne, à vous et à papa, un destin magnifique. Je me sens enfermée toute seule dans une prison pleine de chagrin. Aujourd'hui, j'ai eu une apparition. Vous, Marina. Je crois tout le temps vous entendre parler, chanter de votre voix que j'adore.
Alia, petite ombre sur l'horizon immense, je dis en vain, n'y touchez pas, viendra le jour. Quand par-dessus les bois, et par-dessus les champs, tous les cieux se figeront, constellés d'étoiles, deux inséparables, vers des sorts distincts, fileront, embarqués dans des trains différents.
Comment ne pas croire au talent de prophétie de Marina ? Ses contemporains la disaient volontiers sorcière, ensorcelant son entourage, damnant ses ennemis pour l'éternité. La petite Alia parle de sa mère comme d'un fantôme qui viendrait lui parler à son chevet. J'ai soudain cette intuition, comme si Marina, la mauvaise mère, avait jeté un sort à sa fille, comme si ce premier abandon de la petite enfance la préparait à la grande épreuve de sa vie d'adulte, le goulag. Le fil d'Ariane se tend et se perd dans l'infini. De la banlieue de Moscou, au bord du cercle polaire, Ariadna parcourt les cercles de l'enfer.
Moscou, janvier 1958. Chère mère, je suis de retour à Moscou, auprès de ceux qui sont devenus ma famille. Olga Ivinskaya et sa fille, la belle Irina, que j'aime comme ma propre fille. Boris Pasternak est rongé d'inquiétude. Son roman, Le docteur Jivago, a été publié clandestinement en Italie et il vient de recevoir le prix Nobel de littérature. Mais cette nouvelle fait scandale. Nous recevons des coups de téléphone anonymes, des menaces. Et je m'inquiète pour lui, mon père d'adoption. C'est grâce à lui que j'ai survécu au goulag. Ses lettres ont été le seul lien qui me rattachait à la vie, à l'écriture. Je reprends la lecture de vos carnets, Marina. Je comprends enfin pourquoi nous quittons subitement Moscou à l'été 1922. J'ai 10 ans. C'est le début de notre long exil. C'est d'abord à Berlin que nous retrouvons Sergueï, ce mois de juillet 1922. Je me souviens encore de l'apparition de ce père inconnu dont j'avais oublié les traits. Bientôt nous déménageons, à Prague, puis dans les villages les plus pauvres des alentours de la capitale. Chaque semaine, papa se rend en ville où il suit des cours à l'université. Son retour chaque vendredi est resté gravé dans ma mémoire. Le soir, à table, Sergueï nous fait la lecture. Je découvre Flaubert, Dickens, Shakespeare. La littérature est notre seul luxe. Assise en face de papa, je recopie des bribes de textes, en français, en anglais. Je les apprends par cœur. Comme lorsque j'étais petite fille, dans notre cuisine de la rue Boris et Gleb, je serre la plume que je tiens entre mes mains. J'aimerais retenir ces instants précieux, ce bonheur enfin partagé. Alors seulement, vous redevenez mère. Assise sur le bord du lit de fer, vous reprisez religieusement les 2 seules robes que je possède, l'une pour l'été, l'autre pour l'hiver. Mais vous devenez de plus en plus exigeante, impatiente. À l'époque, déjà, une ombre s'est glissée dans notre vie. Et je vous sens de plus en plus lointaine, indifférente, agacée par mes maladresses, agacée par les longues absences de papa. Entre vous, ce ne sont bientôt que reproches, cris et pleurs. Comme si les collines de Prague s'étaient mises à trembler.
Elle disait encore, la montagne, que la vie est un campement, qu'il faut toujours glaner dans les cœurs. La montagne disait aussi que le démon nous égare, que ce jeu n'a pas de sens.
Regardez-moi, Marina. Nous sommes toujours à Prague. J'ai 12 ans. Je ne le sais pas encore, mais vous vous éloignez de papa. Vous êtes amoureuse d'un autre homme, Konstantin Rodzevitch, un ami de Sergueï, comme lui, réfugié. À travers le temps, je m'aperçois soudain que c'est là, sans doute, que tout a commencé. Je veux dire, le drame de notre famille, la première faille, les premiers désaccords sur notre avenir et sur l'avenir de la Russie. Aux vacances d'été, Marina, vous avez ces mots cruels envers moi. Alia est devenue une petite fille ordinaire. Vous méprisez celle qui vous échappe pour la première fois. Je grandis. Vous vous détournez de moi.
Je ne peux deviner le chagrin qui vous accable. La rupture définitive et douloureuse avec Constantin Rodzevitch, le héros du poème de la montagne et du poème de la fin. Oui, pour vous, Marina, c'est la fin de deux amours, de votre histoire passionnelle avec lui et de notre histoire fusionnelle entre vous et moi.
Alia devient une enfant, c'est-à-dire un être qui fuit la douleur. Et moi, voyons, je suis une douleur dans sa vie, la douleur de sa vie.
L'année suivante, un autre enfant merveille me détrône. C'est à Prague, le 1er février 1925, que naît Georgi, mon petit frère. Vous le surnommez Moore, comme le chat des contes d'Hoffmann, l'un de vos auteurs fétiches. Moore est l'enfant tant désiré, comme une promesse à la vie, faite le jour même de la mort d'Irina. Mère sorcière, au pouvoir de vie et de mort, savez-vous si cet enfant est celui de Sergueï ou celui de Constantin Rodzevitch? À l'automne 1925, nous reprenons le chemin de l'exil, toujours plus à l'ouest, direction Paris, ou plutôt la banlieue sud, Meudon, Clamart, Vanves. 14 ans de misère et d'indifférence.
Août 2017. Je découvre le dernier appartement que la famille Efron a occupé à Vanves, rue Jean-Baptiste Potin, un modeste 3 pièces au 3e étage. L'appartement est occupé par un jeune professeur d'allemand, amoureux de Rilke. Il me raconte son étonnante histoire. Il y a quelques années, une jeune femme russe frappe à sa porte. Savez-vous que Marina Tsvetaeva a vécu ici? Marina Tsvetaeva, la dédicataire de la 12e élégie de Douino? Est-ce possible? Florent Delporte, le professeur, invite la jeune femme à visiter le logement. Elle s'appelle Alexandra Zvinina. Elle a fui Moscou à l'âge de 20 ans. En 2005, elle réalise un film sur Marina, intitulé « Élégie de Paris ». Alexandra revient en pèlerinage sur les lieux où Marina a habité. À l'étage, elle récite le poème de l'escalier. Puis, penchée à la fenêtre de ce qui fut le bureau de la poétesse, elle cherche du regard les marronniers qui peuplent la poésie de Tsvetaeva. Les arbres n'existent plus. Ils ont été coupés. Je poursuis la visite, en compagnie de Florent. Dans le salon exigu, le parquet craque. J'imagine les lits d'Alia et de Moore se faisant face. Je crois entendre leur respiration, ainsi que les soupirs maladifs de Sergueï dans la chambre attenante. Je découvre le décor du drame familial, le décor de la dernière dispute entre Marina et Ariadna, le lieu où le destin de la famille bascule. C'est un voyage dans le temps, à l'époque où les murs eux-mêmes tremblent de peur.
Regardez-moi, Marina, j'ai 18 ans. Le jour, je suis des cours de dessin et de peinture à l'école du Louvre. Je rêve de devenir dessinatrice de mode. Le soir, pour subvenir à nos besoins, je tricote des bonnets de laine pour les vendre au marché. Tuberculeux, papa est incapable de nourrir notre famille. Vous couchez sur le sol dans la cuisine pour ne pas être contaminé. Lorsque Sergueï guérit enfin, il s'absente mystérieusement, sans un mot. Peu à peu, il commence à gagner de l'argent, mais vous abandonne de plus en plus souvent. Il vous laisse seul avec Moore, qui vous accapare et vous empêche d'écrire. J'aime voir papa reprendre goût à la vie. Il est devenu rédacteur en chef d'une revue pro-soviétique. Je l'accompagne souvent à son bureau, rue de Bussy, dans les beaux quartiers de Paris. Je partage son enthousiasme pour les progrès de l'URSS. Vous vous enfermez dans une indifférence obstinée. La poésie devient votre tour d'ivoire. Alors je m'éloigne de vous, de vos perpétuelles critiques, de nos disputes de plus en plus violentes. Regardez-nous ce jour d'automne 1934. Pour aider notre famille, je sacrifie mes études. J'accepte un emploi précaire. À nouveau, votre égoïsme me glace. Avec ton emploi, tu me condamnes à ne pas écrire. Vous me menacez. Si tu choisis ce travail, tout est fini entre nous. Je rétorque. Et vous, Marina, y avez-vous réfléchi? Vais-je passer ma vie à travailler chez vous comme femme de ménage? Ce jour de septembre, le ton monte, puis les injures monstrueuses. Roulure, salope. Comment ai-je pu prononcer ces mots hideux? Comment en sommes-nous arrivés là? Qui de nous deux est la plus malheureuse? Un soir, je décide d'en finir. Je m'enferme à la cuisine et ouvre le bouton du gaz. L'odeur âcre me prend à la gorge, j'ai la sensation d'étouffer. Chaque inspiration me brûle les poumons. Je tousse, crache du sang, comme lorsque j'étais enfant à l'orphelinat. Soudain, comme par enchantement, papa est là, devant moi, mon papa invincible. Il se précipite, ouvre grand la fenêtre, l'air froid me déchire les bronches. Ce soir-là, papa me sauve la vie. Plus tard dans la nuit, il me parle pour la première fois de son engagement pro-soviétique. Il me transmet son espoir en une vie meilleure, dans la nouvelle Russie. Il a déjà fait une demande de passeport et n'attend que le miracle de vous convaincre.
C'est l'enfer. Le mot de l'énigme, c'est que Seryoshka brûle de partir en Russie. Il veut être un homme nouveau. Et il me tire. Mais moi, je ne veux pas. Et je ne peux pas.
Au fond de moi, une certitude grandit. C'en est fini du grand roman maternel. Ici commence le roman paternel. Ce père, absent pendant toute ma petite enfance, prend enfin place dans ma vie. Il devient l'idole, le modèle d'une vie meilleure. Papa m'invite à m'installer à Paris, dans une petite chambre aux 12 rue de Bussy, siège de l'Union pour le rapatriement et de la revue pour laquelle il travaille. Il m'offre un appareil photo et me demande de l'aider dans ses missions de repérage. J'y vois l'occasion de sortir rejoindre des amis au café de Flore. Enfin, je fréquente des jeunes gens de mon âge, je me sens utile. Je ne vois pas que toute cette animation culturelle est au service de la propagande soviétique. Je ne vois pas que papa m'entraîne dans des activités de filature. Est-elle vraie, la rumeur selon laquelle il aurait participé, que j'aurais participé, à la traque de Lev Sedov, le fils de Léon Trotsky qui mourra empoisonné à Paris? À 25 ans, je ne vois rien de tout cela. Je crois avoir la vie devant moi. Je décide de quitter la France définitivement. Sur le quai de la gare, ce 15 mars 1937, vous me serrez soudain dans vos bras, mère. Après tant d'années de tension, j'essaie de contenir mon émotion. Nous y voilà. Ce moment que j'appréhendais petite fille dans la cuisine de la rue Boris et Gleb. Que rien ne nous sépare. Cette minute de la séparation, tant redoutée et tant désirée. Ce jour-là, je vous abandonne à votre sort. Sans le savoir, sans le vouloir, je précipite les événements qui briseront notre famille. Le train siffle. Ce sifflet d'adieu emporte mon âme. Combien en emporte-t-il? Je vous aime.
Désormais, les hommes entrent dans la vie d'Ariadna. Son père, bien sûr, mais aussi Boris Pasternak. Étrange Pasternak, l'amant fantasmé de Marina, qui n'a rien fait pour empêcher le suicide de la poétesse, mais qui sauvera sa fille du désespoir. Du docteur Jivago, je retiens l'image du train de l'histoire. Je pense à la première page, légendaire du roman. Un train, au lointain, emporte les voyageurs vers leur destin, comme les prisonniers vers les camps du goulag. Je pense à cette lettre d'Ariadna à Pasternak, écrite en 1948, pendant sa déportation au camp de Touroukansk, en Sibérie centrale. Pasternak lui avait fait parvenir en secret le manuscrit du livre. Ariadna est la première lectrice et première critique du docteur Jivago. Mais qui le sait ? Cher Boris.
Cher Boris.
Il est remarquable ce rapide de 5 heures. Ce train jaune et bleu tout rapetissé par la distance, qui s'avance rapidement sur nous en gros plan, avec tout son chargement de vie et de destin.
Tu es plus fort que la vie. Je t'aime terriblement. Ton Alia. Dans le train Tarussa-Moscou, août 1959. Chère mère, depuis 2 ans, je multiplie les allers-retours à la capitale afin de faire éditer un premier recueil de vos poèmes. Je tiens la promesse que je me suis faite à mon retour des camps. Vous redonner vie à travers vos écrits, rassembler vos manuscrits, rassembler mes derniers souvenirs de vous. En août 1939, il y a tout juste 20 ans, je vous voyais pour la dernière fois. Dès mon arrivée à Moscou, au printemps 37, je me consacre à la cause bolchevique. Je travaille comme journaliste et illustratrice dans une maison d'édition d'État. Mes talents sont reconnus. Enfin, je me sens adulte, indépendante, libre. Dans les locaux de la rédaction, je fais la connaissance d'un homme, Samuel Gourevitch. Nous avons en commun d'avoir passé notre enfance à l'étranger. Comme papa, il est revenu en URSS soutenir l'idéal soviétique. Je suis amoureuse, pour la première fois. Samuel est marié, mais je le considère comme mon mari, mon moulia. Obstinément, je veux croire au bonheur, en une vie nouvelle. Je ne vois pas l'horreur autour de moi, le début des grandes purges, des grands procès staliniens. En septembre 1937, une affaire d'espionnage éclate. Papa est impliqué dans l'assassinat d'un certain Ignace Reiss, un ex-agent soviétique réfugié en Suisse. Papa est rapatrié de toute urgence, en secret, par la milice stalinienne. Mais je ne sais rien de tout cela. Je l'accueille, malade, tuberculeux. Au printemps 1939, vous recevez soudain l'ordre de revenir au pays. Vous qui vous étiez tellement opposé au projet de Sergueï. Vous disiez que vous alliez étouffer en URSS, que dans ce sigle SSSR, il n'y avait pas même une voyelle pour respirer.
On ne me laissera pas rentrer en Russie. Les lettres ne s'écarteront pas.
Encore vos dons de divination, Marina. Les lettres URSS vont bientôt nous broyer entre leurs tenailles. En juin 1939, c'est la précipitation. Vous prenez le train jusqu'au Havre, puis vous embarquez sur un paquebot qui vous ramène en Russie. À Leningrad, c'est moi qui viens vous accueillir sur le quai. Vous m'apparaissez tel que je vous avais quitté 2 ans auparavant, sur le quai de la gare du Nord à Paris. À vos côtés, Mour a beaucoup changé. J'avais quitté un garçon intrépide, à l'âge ingrat. Je découvre un élégant jeune homme de 14 ans, plus mature. Je fais tout pour vous paraître heureuse, légère et gaie. Je tente de retarder les épreuves qui vous attendent. Bientôt, vous emménagez dans une datcha des environs de la capitale, à Bolchevo. L'adresse faussement accueillante résonne en vous comme un mauvais présage plein de cynisme. La vie nouvelle. Nous l'ignorons, mais cette banlieue est le lieu de résidence surveillée du NKVD. On y enferme les émigrés qui ont connu des échecs à l'étranger en attendant de régler leur sort. Malade, papa reste alité la majeure partie de la journée. Un samedi soir, je vous rends visite en compagnie de Samuel qui a beaucoup œuvré pour réunir notre famille. Nous passons la nuit à Bolchevo. Le lendemain, à l'aube du 27 août, une voiture noire se gare devant la datcha. Les corbeaux viennent m'arrêter. Sans un mot de menace, les policiers procèdent à la perquisition réglementaire, fouillant partout, déchirant les pages des livres où figurent des dédicaces compromettantes. En silence, je cherche mes papiers, rassemble mes affaires. De la chambre contiguë, vous me regardez, Marina, les yeux fixes, stoïquement assise sur le bord du lit. Je ne vous dis pas au revoir. Tu nous fais mal tes adieux, Alia, murmurez-vous, le visage livide. Les yeux bandés dans la voiture, j'ignore où l'on m'emmène. Je la prendrai plus tard. La Lubyanka, siège du NKVD, sinistre prison politique au cœur même de Moscou. C'est le début de l'enfer. On m'enferme en cellule d'isolement, complètement nue, avec interdiction de m'allonger, de m'asseoir, de m'endormir. Debout sous un néon, on m'aveugle de lumière blanche. Combien de temps cela dure-t-il? Je ne sais plus. Je frissonne, je titube sur mes pieds gelés. J'ai la tête lourde, les yeux secs et boursouflés, les jambes gonflées. Les interrogatoires se succèdent. Ils commencent n'importe quand, au milieu de la nuit ou du jour, et durent entre 2 et 15 heures d'affilée. On me frappe à coups de matraque. On m'enferme dans un cachot spécial, la chambre froide. Lorsque j'en sors, le corps bleui, contracté de douleur, je suis escortée dans la cour, où, les yeux bandés, on me place dos au mur. Un gardien s'approche et me murmure « Et si je tirais dans la nuque, ce serait plus rapide, quasi indolore ?» Après le froid du cachot, je ressens soudain une vague de chaleur envahir mon corps. Soudain, une voix hurle l'ordre de tirer. Je crie, perds connaissance et m'effondre sur le sol. Est-ce quelques minutes ou des heures après? Lorsque je reprends conscience, je suis assise à un bureau, une lampe braquée sur les yeux. Je comprends que c'était un simulacre d'exécution, une pratique courante pour faire craquer les détenus. L'un des bourreaux ironise. « Voyons, Ariadna Efron, dans quel état vous mettez-vous? Vous avez de si jolis yeux. »
Sibylle, pourquoi mon enfant doit-il avoir un tel destin? Pour lui, un destin de Russie. Pour lui, un destin de sorbier.
Marina, écoutez, vous ne savez rien de mon sort, ni de celui de Sergueï. 2 mois plus tard, le 10 octobre 1939, papa est arrêté. Je ne le reverrai plus jamais. Je l'apprends au cours de mon procès l'année suivante. Nous sommes tous deux condamnés en tant qu'ennemis du peuple, coupables de contre-espionnage. Pour moi, 8 ans de travaux forcés, suivis de la déportation à perpétuité au camp de Touroukansk. Pour lui, la condamnation à mort. Papa est fusillé 2 ans plus tard, le 16 octobre 1941, dans les caves de la prison. Sergueï, mon papa lion que je croyais invincible. Tout au long de ses interrogatoires, il n'a pas cédé. Il vous a sauvé, Marina, affirmant que vous ignoriez tout de ses activités. Il a résisté jusqu'à en devenir fou. Il errait dans les couloirs, croyait entendre votre voix qui lui récitait un poème d'amour connu de vous seul.
Писала я на аспидной доске и на листочках вееров поблеклых.
J'écrivais sur un tableau d'ardoise et sur les feuillets d'éventail fanés et sur le sable des mers et rivières, d'un patin sur la glace, d'une bague sur le verre et sur l'écorce des arbres centenaires. Et enfin, pour que nul ne pût ignorer que tu es aimé, 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 aimé.
Mais в руке продажного песца зажатая. Ты, что мне сердце жалишь, не проданная мной внутри кольца. Ты уцелеешь на скрижале.
En 2017, Irina Emelianova, la fille de cœur d'Ariadna, me parle de ce poème. C'est l'un des derniers textes que Marina Tsvetaeva tente de faire publier en 1941, au moment même où Sergueï, en prison, croit entendre sa voix. Marina la sorcière, Marina l'ensorceleuse, l'a-t-elle soufflé comme par magie à l'oreille de son mari?
Papa est mort en entendant votre voix, Marina. Mais a-t-il pensé un seul instant qu'il mourait de la main de sa fille? En 1940, je cède à la torture et accepte de signer de faux aveux. Je condamne Sergueï à mort. L'année suivante, en 1941, vous vous donnez la mort, Marina. Je la prends un an plus tard, trop tard. Je n'ai rien pu faire pour empêcher votre geste. Le regret et le remords. Voilà cette double culpabilité infinie qui n'en finit pas de me ronger et que je porte au plus profond de moi. Pourrais-je un jour me pardonner mon impuissance, ma lâcheté, ma trahison? Pendant 15 ans, vos visages m'ont hanté, m'appelant le jour, m'apparaissant la nuit. Aujourd'hui, je reprends la lecture de vos carnets, Marina, et j'y retrouve une lettre que j'avais écrite à papa en 1918. J'avais 6 ans. Cher papa, je vous garderai dans ma mémoire infiniment longtemps. Il y a au-dessus de moi tout un abîme de mémoire. J'aime beaucoup le mot « abîme ». Il me semble qu'il existe des gens qui vivent au-dessus de l'abîme et ne meurent pas dans la tempête.
Je l'apprends par une enquête d'un journaliste sur les espions russes. Sergueï Efron ne serait pas mort à la prison de la Loubianka, comme le croit Ariadna. Il aurait été exécuté dans un champ, à la lisière de Moscou. Le journaliste décrit le convoi de prisonniers à l'aube, quittant le centre-ville dans des camions banalisés. Sur les bâches qui les recouvrent, il est écrit « distribution de pain » en grandes lettres, afin de cacher leur véritable fonction. J'imagine le paysage. Un pré aux herbes hautes, balayé par le vent matinal, l'impression de flou créée par une légère brume de rosée, le frissonnement du vent dans les feuillages. D'un geste banal, le journaliste se penche pour ramasser une pomme. Mais au moment de porter le fruit à sa bouche, il arrête son geste. La pomme est le fruit d'un charnier. Je ne sais plus le nom du journaliste, ni le titre du livre publié dans les années 1980. Impossible de retenir ces traces du passé. Année 1980, si près, si loin. La perestroïka ouvre les archives russes. Des documents rares sortent enfin du silence. Le docteur Jivago est enfin publié de manière officielle en Russie. En France paraît la première traduction de la correspondance entre Boris Pasternak et une inconnue, Ariadna Efron.
Dans le train entre Peredelkino et Moscou, 30 mai 1960. Écrire, pour rassembler les fragments de nos existences éparpillées. Écrire, comme je ne l'ai jamais fait avant cette longue lettre, Marina. Je ne serai jamais poète, je le sais. La peinture est devenue mon langage, un langage de sourd-muet, un langage de déporté condamné au mutisme. Mais aujourd'hui, j'ai décidé de ne plus me taire. Au moment où je prépare le premier recueil de vos poèmes, Marina, une grande douleur me submerge. Boris Pasternak vient de mourir. Dans le train qui me ramène à Moscou, je m'effondre soudain au milieu de mes cabas. Seule dans ce compartiment vide, je pleure pour la première fois de ma vie. Moi qui n'ai pas pleuré votre mort, Marina. Ce 31 août 1941, j'étais si loin de vous, au camp de Rakpas, au bord du cercle polaire. Si près, si loin. Regardez-moi, Marina. J'ai 29 ans. Je semble déjà si vieille. Je travaille à la chaîne dans un atelier de couture. Nous fabriquons des jouets de chiffon qui sont la fierté de l'artisanat soviétique. Un jour, au milieu du brouhaha des machines, j'entends un appel. Alia ! Alia ! Je réponds, cherche du regard qui peut bien m'appeler. Je n'ai compris qu'un an plus tard, quand j'ai su. C'était la fin de l'été, au moment où vous décidiez d'en finir. Vous m'appeliez au secours. Vous étiez si près, j'étais si loin. Mère, je vous revois errer dans le village d'Iela Bouga. Je reconnais votre silhouette frêle, votre visage carré aux cheveux blancs. Vous portez toujours votre robe grise et vos bagues d'argent. Vous apparaissez comme l'héroïne de mon enfance, telle une étoile dans mon ciel noir. Je vous vois près de moi. Je vous parle comme je ne l'ai jamais fait. Je vous dis ce que je n'ai jamais eu le temps ni le courage de vous dire. Que je vous aime. Que j'ai grandi à l'encre de vos mots. Que vous m'avez nourri d'un amour sublime et insensé. Un amour démesuré et solitaire que j'ai mis toute une vie à comprendre. Tarusa, juillet 1975. Daragaya Mama. Je ne quitte presque plus Tarusa, la ville lumineuse de votre enfance. Vos poèmes sont enfin édités. Tentative de jalousie, le poème de la montagne, le poème de la faim. J'y ai consacré toutes mes forces. La petite Irina Emelianova, que j'ai connue enfant, vient de devenir mère pour la seconde fois. Je lui ai cueilli un magnifique bouquet de fleurs sauvages. Je pourrais presque croire au bonheur. Mais le malheur se rappelle à moi comme une damnation infinie. L'enfer, j'y ai encore goûté. C'était l'année passée. Un coup de téléphone, inattendu, anonyme. Quelqu'un qui avait connu mon prétendu mari, Samuel Gourevitch, me donnait rendez-vous à Moscou. Ce jour de juillet 1974, Samuel est mort depuis plus de 20 ans. Je prends le train Moscou aller-retour dans la journée, 200 km, malgré mes jambes lourdes et fatiguées. En rentrant, je déchire la photo de Samuel que j'avais épinglée dans ma chambre. Je viens d'apprendre l'inconcevable. Le seul homme que j'ai aimé, le seul homme qui m'ait aimé, était un agent des services secrets chargé de me surveiller. Il a été fusillé comme traître en 1952. Sergueï, Samuel, les deux hommes de ma vie, au destin lié par les mêmes mensonges. Est-ce Samuel qui m'a dénoncé ? Est-ce sous ses ordres que j'ai été arrêtée, torturée, condamnée au goulag ? Ai-je pu m'aveugler et tomber amoureuse de mon propre bourreau ? Je n'aurai jamais de réponse. J'emporterai cette énigme dans la tombe. Car je vais bientôt mourir, je le sais. Je m'apprête à vous rejoindre, Marina. Je le sais, car je vous vois, près de moi, pour la troisième fois. Vous m'apparaissez, comme dans la cuisine de la rue Boris et Gleb, comme dans l'atelier du camp de Rakpas. Je reconnais votre silhouette frêle et votre visage carré, encadré de cheveux blancs. Vous n'êtes plus jeune, mais toujours belle, éternelle, comme une héroïne de théâtre. C'est le dernier acte de notre histoire. Vous êtes venue me chercher, comme vous étiez venue me chercher, enfant, à l'orphelinat. Je vous entends murmurer.
Alia, mon miracle, la moitié de ma vie. Pourquoi le destin a-t-il voulu que toi seule, de mes trois enfants, me survive ? Toi seule, Ariadna, a trouvé la sortie du labyrinthe. Toi seule savais me donner l'amour dont j'avais besoin. Oui, cet amour était monstrueux, presque incestueux. À force de trop nous étreindre, nous avons inversé les rôles. Tu es mère. Et je suis fille. Tu as accouché de mon œuvre. Alechka. Je suis venue te dire un dernier secret. Avant de mourir, dans la boue d'Iela Bouga, j'ai dessiné nos animaux totems. un lion pour Sergueï, un lynx, symbole de lucidité pour moi qui n'ai fait que m'aveugler toute ma vie, une panthère pour toi, Ariadna, qui a mené tant de combats, un chaton pour Irina, en souvenir de son petit minois, et un tigre pour Mour l'intrépide. Quelle famille de fauves pitoyables nous formons. Ces dessins éphémères, je les ai regardés et aimés une dernière fois. C'est ma façon de nous réunir dans la poussière du temps. Garde leurs traces précieusement, toi qui dessines si bien. Pardonne-moi, mon Alia, mon miracle.
Est-ce votre voix ou le bruit du vent dans les branchages? Ce cri du vent qui m'accompagne depuis les plus terribles bourrasques de Sibérie? Marina, si vous m'entendez, sachez que j'ai tenu ma promesse. Vous m'avez donné la vie. Je vous la rends au centuple. À travers vos livres, je vous offre la postérité. L'éternité des écrivains.
C'était Marina et Alia, un amour monstre, par Estelle Gap. Seconde partie, Alia la muette. Une adaptation de Je t'aime affreusement d'Estelle Gap. Avec Anne Cantino, Julia Védis-Bogard, Johanna Nizar et Tatiana Spivakova. Prise de son, montage, mixage, Éric Boisset, Éric Villenfin. Assistante à la réalisation, Laure Chastan. Réalisation, Laurence Courtois. Je t'aime affreusement, d'Estelle Gap, est publié aux éditions des Sirtes.